lui est inchangé. Il est à 3780 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Il y a des courses à vire cet après-midi. Nous avons déjà l'arrivée de la première. Premier le 8, 6,90 et 2,50. Deuxième le 13, 2,40 et troisième le 10, 2,20. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. On passe tout de suite à 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, celui qui fut à la fois le successeur de Staline et le premier à dénoncer ses crimes, Nikita Khrouchtchev.
25 février 1956, une date à retenir. Le 20e congrès du Parti communiste soviétique se terminait avec le rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes du stalinisme. La déstalinisation allait changer la face du communisme mondial.
D'histoire. De tous les dirigeants de l'ancienne URSS, Khrouchtchev est le seul à n'avoir pas été enterré au Kremlin. Quand il est mort en 1971, 7 ans après avoir été écarté du pouvoir, celui qui avait été le maître d'une des plus grandes puissances de l'histoire n'était plus qu'un simple retraité que plus personne ne venait voir dans sa datcha de la région de Moscou. On avait voulu oublier que bien avant Gorbatchev, Khrouchtchev avait été le premier à vouloir réformer le communisme, à entreprendre une coexistence pacifique avec les États-Unis, à faire de son pays la première puissance spatiale des années 60, et surtout le premier à dénoncer les crimes de celui auquel il avait succédé et dont il avait été chargé d'organiser les funérailles à Moscou en mars 1953.
Прощай. Наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Staline.
Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ?
Lili Marcoux, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, ses successeurs, les successeurs de Staline, depuis sa mort en 53 jusqu'à aujourd'hui, on les retrouve tous dans votre livre, Les Héritiers, qui vient de sortir chez Pygmalion. Et parmi eux, le premier d'entre eux, celui dont nous allons parler avec vous, c'était Nikita Khrouchtchev, dont le moins qu'on puisse dire, Lili Marcoux, c'est qu'il était un héritier plutôt ingrat, puisque au fond, toute sa carrière, il la devait à Staline.
Tout à fait, mais on verra par la suite que tous étaient d'une manière ou d'une autre ingrats en tuant le père symbolique. Mais sûrement Khrouchtchev plus que les autres, parce que il a voulu politiquement, et il avait raison de déstaliniser son pays, tout en restant lui un stalinien. Peut-être qu'il ne le savait pas, mais dans son inconscient, il restait stalinien. Mais il voulait de tout son cœur réformer son pays, et il fallait passer par là, il fallait déboulonner Staline.
Alors, c'est vraiment un prototype même, vous le dites, d'un dirigeant soviétique d'après la Révolution. Sa carrière, il la doit à Staline, il la doit à la Révolution. Il faut rappeler qu'il est né en 1894, c'est un petit-fils de serf, c'est un fils de paysan, il a été mineur lui-même, il n'est entré au parti que juste au lendemain de la Révolution, en 1917, et alors là, il en a gravi tous les échelons au point d'entrer au Politburo en 1939. Le Politburo, c'était la plus haute instance du parti communiste soviétique. Et là, vraiment, tout ça, c'est parce qu'il est poussé par Staline. Et il a même, d'une certaine manière, participé au crime de Staline dans les années 30.
Mais énormément. Il a décimé en Ukraine. C'était on l'appelait le mineur de Donetsk, l'homme de Staline à Kiev. C'était lui qui a fait la grande terreur en Ukraine. Mais ce qu'il faut voir comme spécificité du personnage et qui prouve qu'il avait quand même des mérites, parce que sinon comment il serait arrivé si haut, c'est qu'il ne fait pas partie des anciens vieux bolcheviques qui avaient une pratique pré-révolutionnaire, une certaine culture, les langues étrangères, les voyages. C'est vraiment un homme du terrain, c'est un homme quasi analphabète, qui n'est même pas un autodidacte, et cependant sa force physique, son élan, sa meneur d'homme, si vous voulez.
Son courage aussi, il a participé à la bataille de Stalingrad.
Oui, mais ça c'est plus tard, mais oui, la période la guerre, il est dans l'armée, il s'inscrit dans l'armée rouge pendant la guerre civile. C'est son premier geste politique à côté des bolcheviks.
Donc participe aussi comme commissaire politique à Stalingrad à la Deuxième Guerre mondiale. Bref, une carrière exemplaire qui fait de lui un des dauphins possibles de Staline, même si les journalistes occidentaux en 1953 ne citent pas encore le nom de Khrouchtchev.
Molotov reprend le ministère des Affaires étrangères. À côté de lui, Malenkov qui s'installe à la place de Staline au secrétariat du parti et à la direction du gouvernement. Le maréchal Vorossilov à gauche devient chef de l'État et à l'extrême gauche, Beria, chef de la police et de l'industrie atomique, prend la seconde place après Malenkov. Staline disparu, la politique de l'URSS va-t-elle évoluer aux mains des nouveaux maîtres?
Alors ça c'est en 53, Molotov, Vorossilov, Beria, Malenkov, on ne cite pas le nom de celui qui va vraiment succéder à Staline, c'est Khrouchtchev. Qu'est-ce qui s'est passé? A priori, c'était Malenkov. Hein. Il prend tout de suite les fonctions importantes, chef de gouvernement et chef du parti.
Il est désigné par Staline comme dauphin au 19e congrès en octobre 52. Et il est flanqué toujours de Beria. Khrouchtchev arrive plus tard au Kremlin, mais appelé par Staline parce qu'il sentait toutes ces intrigues qui mijotaient derrière son dos en sentant la succession. Et du coup, il avait besoin de contrebalancer. Il fait venir Khrouchtchev. Et en effet, on n'entend pas parler de lui, mais on entendra quelques semaines après la mort de Staline. C'est lui qui a le pouvoir déjà.
Et c'est lui qui participe, entre autres, à ce qui était, dites-vous, Lydie Marcoux, le dernier procès stalinien, c'est-à-dire l'arrestation et l'exécution de Beria. En décembre 1953.
Oui, c'est absolument l'artisan principal. Il n'aurait pas pu faire cela seul.
Beria, il faut le rappeler, c'était le chef de tous les services, de toute la police stalinienne. C'était un des hommes les plus puissants du RSS après Staline.
Il avait tout le pouvoir après la mort de Staline. Il a contribué à la mort de Staline. Et ça, c'est certain qu'il a contribué à une sorte d'assassinat de Staline, Beria. En effet, Khrouchtchev, c'est l'artisan de cette arrestation et de cette condamnation, de cette liquidation, si vous voulez, dernier procès stalinien. C'est à partir de ce moment-là qu'il a le pouvoir.
Parce qu'il prend la tête du parti communiste soviétique, hein, il remplace Malenkov qui est mis de côté. Le parti communiste, il faut bien comprendre, quand on est secrétaire du parti, premier secrétaire ou secrétaire général, ça dépend de l'époque, on est à la tête de l'institution la plus importante de Russie, puisqu'en Russie, il n'y a qu'un parti, c'est le parti communiste de l'Union soviétique, enfin à l'époque. Hein.
C'est le vrai pouvoir, c'est pas le premier ministre, c'est le secrétaire général qui a le pouvoir. Et lui, là, une semaine après la mort de Staline.
Khrouchtchev, donc, qui prend la tête de ce parti, auquel il va imposer, Lili Marcoux, une véritable révolution au 20e congrès du parti, le premier congrès après la mort de Staline, en demandant donc, en dénonçant justement, en 56, les crimes de Staline. Écoutez, une cette archive soviétique annonçant donc l'ouverture de ce fameux 20e congrès, et puis le témoignage d'un de ceux qui y ont assisté, Alexis Adjoubey, qui était le gendre de Khrouchtchev, aussi stupéfait que les autres quand son beau-père a dénoncé pour la première fois les crimes de Staline.
Февраль 1956 года. Коммунистическая партия Советского Союза проводила свой 20-й съезд.
Зал наэлектризовался.
Алексей Джубей.
Кричали: позор, убийцы, предать суду.
La salle était électrisée. On hurlait, honte, assassin, livrez-les à la justice. L'excitation a atteint son comble et les anciens chefs, le proche entourage de Staline qui se trouvait au présidium, ont tout de suite compris que c'était une catastrophe pour eux, que l'heure de la catastrophe était venue, que Khrouchtchev faisait ce qu'il voulait faire, dire la vérité sur Staline.
Он расходился, Хрущев, по ходу речи.
Khrouchtchev montait sur ses ergots et plus la réaction de la salle était vive, plus il prenait de l'assurance. La salle hurlait. Je me souviens très bien que des médecins y sont entrés en amenant les personnes saisies d'un malaise. C'était ceux dont les parents, les frères et sœurs avaient été exterminés et que Khrouchtchev réhabilitait.
Et c'était le témoignage d'Adjoubaï, le gendre de Khrouchtchev, présent à ce fameux 20e congrès, racontant la stupeur des membres du parti à cette époque, Lili Marcou. Il y avait de quoi parler des crimes de Staline et les dénoncer. C'était un sacrilège, même 3 ans après la mort de Staline.
Mais surtout 3 ans, parce que ce n'était que 3 ans. Et c'était un immense courage. L'histoire doit rendre hommage à Khrouchtchev pour ce courage. Alors, ce rapport, évidemment, en tant qu'historien, aussi on le disait, qu'on trouve plein d'erreurs, de mensonges, il contourne la vérité, mais c'est un acte politique. Et de ce point de vue, en tant qu'acte politique, ça reste encore aujourd'hui quelque chose de très important, parce que ça a marqué pas seulement l'histoire de l'Union soviétique, mais ça a marqué tout le communisme mondial, qui était encore quelque chose de très fort, et puis ça a marqué le monde, la coexistence pacifique, les relations est-ouest, la guerre froide.
Si quand vous dites le communisme mondial, il faut bien comprendre une chose, Adjoubaï le dit d'ailleurs dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que au fond, ce qui se passe, c'est que, en accablant Staline, non seulement Khrouchtchev accable les staliniens du RSS, mais même ceux dans les partis communistes du monde entier qui ont été staliniens. Par exemple, en France, ça a posé des problèmes. On a dissimulé ce qui s'est passé au 20e congrès. On a parlé du rapport attribué à Khrouchtchev.
Et alors surtout, jusqu'en 77, en France.
Et surtout, alors, il y a eu 2 cas importants. En Pologne, une révolte contre les dirigeants staliniens, et en Hongrie. Et là, en Hongrie, qu'est-ce qui se passe? L'URSS intervient, les chars interviennent, on écrase la révolte hongroise de 1956. Ça montre bien quand même que la déstalinisation, elle a des limites. Hein. On emploie des méthodes staliniennes.
Là, mais forcément, mais tout le temps, Khrouchtchev veut rappeler, pas seulement dans des moments si graves que la révolte hongroise, où les chars soviétiques ont massacré, et c'était Khrouchtchev jusqu'à la fin de ses jours, même dans ce qu'on appelle les mémoires inédites en français, ou le glasnotable, c'est-à-dire ses dernières mémoires, il prend sur lui, disant c'est moi qui a décidé de liquider cette révolte qui pour lui n'était qu'une contre-révolution. Mais le problème était que même plus tard, quand les écrivains ont cru que c'était l'affaire Pasternak, c'était l'affaire Ehrenburg et tant d'autres, ils ont cru qu'enfin ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient maintenant dans le domaine de la littérature et de l'art. Khrouchtchev les rappelait à l'ordre en disant bon, on a critiqué Staline, mais n'exagérons pas trop.
Alors au 20e congrès, Khrouchtchev n'a pas seulement dénoncé les crimes de Staline, mais aussi sa politique étrangère d'affrontement et de course aux armements avec les États-Unis. Ce que veut Khrouchtchev, lui, c'est une politique de désarmement et de coexistence pacifique avec le capitalisme.
Conscient de notre force, sûr de nos lendemains communistes, nous lutterons avec résolution pour le désarmement et la coexistence pacifique.
Правда ведь обидно, если завязал, а товарищ продал, падлый, за все сказал. За давнишнее, за драку все сказал Сашок, и двое в синем, двое в штатском, черный воронок. До свидания, Таня, а может быть прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. На суде судья сказал 25, до встречи. Раньше б горло я порвал за такие речи, а теперь терплю обиду. Не показываю виду, если встреч я Сашка, ох, как изувечу. До свидания, Таня, а может быть прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак.
Et c'était le chanteur Vladimir Vysotsky. Vous dites d'ailleurs, Lili Marcou, que c'est un des derniers à avoir vu Khrouchtchev quand il était reclus dans sa datcha. En tout cas, c'est un de ceux qui a profité, comme les artistes, de la libéralisation. Mais vous le disiez aussi à l'instant, cette libération culturelle, elle a eu ses limites. Pasternak, en 58, se voit obligé de refuser son prix Nobel.
Absolument. La rencontre avec les intellectuels a été complètement ratée. Il n'a pas supporté l'art moderne. Il n'a pas supporté certains écrits comme Pasternak, c'est la plus classique. Mais il ne s'agit pas que de Pasternak. Les intellectuels avaient tout le temps sur le dos Khrouchtchev, qui censurait lui-même de sa propre main tout ce qui lui semblait un peu sortir de... Parce qu'il y avait la revue Novy Mir qui a publié Ivan Denisovitch, le premier livre de Solzhenitsyn, et ça c'était à l'époque de Khrouchtchev.
Alors on a entendu Khrouchtchev, juste avant cette chanson, parler de coexistence pacifique. C'était quoi au fond?
Et voilà, ça il faut quand même ne pas être trop exagéré. C'est sûr qu'il parle de coexistence pacifique. Pour l'époque, c'était énorme. Mais cette coexistence résistance pacifique, et il n'a pas arrêté de le répéter tout le temps, et je le redis mille fois dans tes mémoires, c'était une politique de dissuasion et de menace, c'est-à-dire on coexiste avec l'Occident, mais on ne coexiste, mais ça sera toujours une lutte de classe à l'échelle mondiale. Il y a deux idéologies qui ne seront jamais en coexistence pacifique, et surtout, il fallait retenir la menace. Et ça, Castro, au moment de la crise des fusées en 62, il n'a pas compris. Parce que Khrushchev voulait menacer les États-Unis, voulait les dissuader en envoyant les missiles.
Mais grosso modo, c'est quand même une amélioration par rapport à la stratégie d'affrontement de Staline face aux États-Unis.
Oui, forcément, mais n'empêche que cette crise, le mur du Berlin, qui s'est construit avec la... C'est pas Khrushchev qui a eu l'idée, c'est les dirigeants allemands. Mais il l'a accepté. Et on lui a été reproché ce mur au moment de la chute. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au moment des affaires, c'était terrible, c'est le moment, même Staline n'a pas amené le monde dans un impasse comme Khrushchev en 62 avec ses fusées.
On y reviendra aussi. Dans ce qu'il y a, c'est que, il faut quand même rappeler une chose, vous le dites d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est que cette coexistence pacifique, de même que la déstalinisation fait des mécontents dans les partis communistes, la coexistence pacifique fait aussi des mécontents dans le monde communiste. Il y a la Chine qui dit, mais comment on va pas pactiser avec les capitalistes? Et c'est peut-être ce qui explique, Lili Marcou, un changement de ton de Khrushchev dès 1959. Il va d'abord aux États-Unis. Ça, on n'a jamais vu un dirigeant soviétique se rendre en visite officielle aux États-Unis.
Non, il sort des frontières souvent.
Et puis alors quand même, en 1960, il y a une affaire. Il y a un avion espion américain U-2 qui est abattu au-dessus de l'URSS, ce qui va faire capoter une conférence au sommet qui devait se tenir à Paris en mai et pousser Khrushchev, écoutez, à employer un langage très peu diplomatique.
Le temps des conférences s'est ouvert à Moscou par une conférence de presse qui a fait un certain bruit. L'affaire de l'avion U-2 américain, abattu au cours d'une mission d'espionnage au-dessus du territoire soviétique, donnait lieu à un tel étalage de pièces à conviction que le monde entier s'interrogea sur les intentions réelles de M. Khrushchev quant à la conférence au sommet. La conférence au sommet ne s'est pas ouverte sous des auspices favorables, c'est le moins que l'on puisse dire.
J'aime voir enrager les laquais de l'impérialisme. Ils ne peuvent rien faire contre notre patrie soviétique. Si bien que vous, messieurs, vous pouvez siffler, mais faites attention. Vous nous avez échappé à Stalingrad, en Ukraine, en Biélorussie. Mais si vous sifflez contre nous et préparez une nouvelle attaque, nous cognerons si fort que vous ne sifflerez plus.
Et c'était Khrushchev en 1960, très très colérique, hein, très brutal aussi. On se souvient, Lili Marcou, que c'est l'homme qui avait retiré sa chaussure à la délégation soviétique de l'ONU pour taper sur la table
l'homme
en apostrophant
les... En Russie, on l'appela l'homme à la chaussure et on ne lui a jamais pardonné cette honte parce que les soviétiques, les russes surtout, sont des gens très dignes et ses sorties à Khrushchev n'étaient pas du tout appréciées. Mais... je veux souligner, parce que ça fait toute la différence avec la coexistence pacifique entamée par Gorbatchev au début de son règne. C'est-à-dire, c'était à ce moment-là la première fois qu'il n'y avait pas de dissuasion et menace. On n'attendait plus rien. On faisait la coexistence pacifique sans demander rien. Or, Khrushchev, il se fondait sur cette idée, on va coexister avec le capitalisme, on va faire à la rigueur des affaires, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des limites. Et ces limites étaient... si vous voulez, concrétiser à travers cette idée de menace et de dissuasion, d'où la course aux armements. Parce qu'il a fait quelques traités, évidemment Mao Tse-Tung l'a critiqué d'avoir fait un traité de blocage plus ou moins de cette course, mais quand même ça a continué, et ça a continué jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev.
Oui, parce que, bon, ça continue. Par exemple, vous l'avez dit il y a un instant, tout à l'heure, Lili Marcou, c'est sous Khrushchev, et c'est pas sous Staline, qu'on construit le mur de Berlin en 61.
Exactement.
Là, la coexistence pacifique, c'est un mot. Et alors, c'est en 62, la fameuse crise des missiles. Faut peut-être rappeler ce qui s'est passé. Pendant l'été 1962, Khrushchev fait installer des missiles de moyenne portée à Cuba, qui est devenu un pays communiste. Kennedy exige qu'il les retire, et au bout d'une semaine de très vives tensions, parce qu'on a pensé à l'époque à la possibilité d'une guerre nucléaire, Khrouchtchev retire ses fusées. Alors ce qui est intéressant quand on vous lit Limarcou, c'est que on se dit depuis 40 ans, depuis cette crise des missiles, ah ben c'est une grande victoire de Kennedy, les Khrouchtchev a dû ramener ses fusées en URSS. Or vous rappelez des compensations très importantes qui fait que finalement Khrouchtchev aussi a gagné quelque chose. Il y a eu des compensations dont les Américains ne voulaient pas que l'on parle publiquement.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Khrouchtchev a fait sa fierté jusqu'à la fin de ses jours que, grâce à lui, en retirant les fusées, Cuba n'a plus jamais été envahi parce que c'était la parole donnée par le président américain. Mais plus que ça, Khrouchtchev a demandé que les Américains retirent les fusées de Turquie et Kennedy a accepté. Il a même retiré les fusées d'Italie, chose encore que Khrouchtchev n'a même pas demandé, mais en demandant à Khrouchtchev de garder le secret parce qu'il ne voulait pas avoir l'air trop humilié. Donc, pour Khrouchtchev, ça n'a pas été un échec. Par contre, ce que je voudrais dire pour prouver à quel point cette coexistence pacifique était marquée par l'idée de la dissuasion et de la menace, c'est que Castro n'a pas compris ça du tout. Et quand il a vu que les fusées se retiraient, il était désespéré, il était très fâché, et il a demandé que Khrouchtchev, au moins, ils envoient un missile atomique sur les États-Unis.
Ah bon?
Absolument, mais ça, on le sait dans les dernières mémoires maintenant publiées à l'époque de Gorbatchev. Et c'est là que Khrouchtchev était mort de rire parce qu'il se moquait de ce pauvre Castro qui n'avait pas compris qu'il s'agit que de la dissuasion et de la menace. Et pour le consoler, il l'a invité faire des vacances au Caucase.
Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, Limarcou, qui est très important. Là, c'est vraiment un échec. C'est la politique économique de Khrouchtchev. Hein. Il va accent. Alors d'abord, sur le plan industriel, succès énorme. Il faut se rappeler que c'est sous Khrouchtchev que l'URSS est la première à envoyer un satellite dans l'espace, le Sputnik en 57, la première à envoyer un homme dans l'espace, Gagarine, la humiliation pour les États-Unis. En revanche, sur le plan économique, c'est plutôt un échec. Il avait voulu, par exemple, accentuer les efforts sur l'agriculture et en lançant une grande campagne pour mettre en valeur des terres vierges. Ça a été un échec total. C'est ça qu'on lui a surtout reproché, je crois, Lili.
Oui, tout à fait, on lui a reproché à la fin. Mais en fait, au début, au moins jusqu'en 58, ça a marché. Et ce qu'il faut quand même qu'on lui garde comme un hommage, il a voulu, et ça a été par rapport à Staline, il innovait, il ne voulait pas que ce soit que la classe ouvrière qui est protégée et que ce soit la paysannerie qui supportait tout le poids de cette expérience utopique qui a été l'Union soviétique, et il voulait que relever un peu le niveau de vie des paysans. Et ça, au début, il avait réussi. Et cette histoire des terres vierges qui a c'était une chose fabuleuse, si vous voulez, au niveau de l'imaginaire, de l'aventure.
En Asie centrale, c'était immense.
C'était immense, le Kazakhstan, derrière l'Oural, l'Altaï, jusqu'en Sibérie. Et ça a marché quand même quelques années, mais c'était le volontarisme bolchevique qui n'a pas tenu le coup de l'écologie, de tout problème. Mais quelques années, il faut reconnaître, Khrouchtchev relève le niveau de vie de toute la société soviétique. Et surtout, c'est la chose la plus importante qu'il ne faut pas oublier, c'est sous Khrouchtchev qu'on commence à construire ce qu'on appelle les HLM aujourd'hui, parce que sous Staline, il n'y avait pas temps pour ça. Le Staline, il voulait l'industrie lourde et collectivisation, il avait la guerre. Alors c'est Khrouchtchev qui commence à construire des logements. Ça a été quelque chose de fabuleux pour les soviétiques. Ça n'a jamais suffi, ça ne suffit toujours pas, mais c'est quand même une chose qu'il faut qu'on retienne.
Et ça n'a pas suffi à empêcher la chute de Khrouchtchev en octobre 1964.
Embrassé par Brejnev, couvert d'applaudissements et de décorations, Nikita Khrouchtchev, le jour de son 70e anniversaire, apparaissait comme le maître indéracinable de toutes les Russies. C'était il y a quelques mois, aujourd'hui il n'est plus rien. La suite de l'histoire dira s'il fut coupable d'avoir au 20e congrès fait le réquisitoire des crimes du stalinisme et déboulonné une idole restée si longtemps taboue. S'il fut coupable d'avoir fait sauter la forteresse d'isolationnisme qu'avait été la Russie de Staline. S'il fut coupable d'avoir prôné la coexistence pacifique, d'avoir renoncé à une nouvelle guerre mondiale pour Castro, d'avoir rompu idéologiquement avec la Chine de Mao Tse-tung. Quoi qu'il en soit, par un coup de baguette magique, il devient numéro zéro, tandis que Léonid Brejnev devient numéro un. Comme les blés de son Ukraine natale, M. K a connu le tranchant de la faucille.
Qu'est-ce qui s'est passé en 64? Il y a exactement 40 ans, hein, cet archiste, en octobre 1964, que Khrouchtchev est renversé. Sans effusion de sang, hein. Ça c'est nouveau en URSS, il ne sera même pas tué ou assassiné comme c'est
d'ailleurs,
courant
c'était
à l'époque stalinienne.
Même entre les larmes, parce qu'il a été très malheureux de la manière dont on l'a traité, mais on ne l'avait pas tué. Et il a dit, s'il n'y avait que ça que j'ai fait, qu'on peut dire à un dirigeant de la ma taille, de s'en aller. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, je cite de mémoire, qu'on demande à Staline de s'en aller? Il aurait pulvérisé tout le monde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas, au fond, la revanche de la nomenclatura stalinienne qui en est responsable, Brejnev en tête, qui a voulu le chasser du pouvoir tout simplement pour le prendre? C'est quoi? C'est une ambition personnelle?
Non, c'est plus profond que ça. Khrushchev, et ça, cette leçon, Gorbatchev l'avait tirée dès qu'il est arrivé au pouvoir. Khrushchev a touché à la stabilité des cadres du parti. Il a introduit la rotation des cadres. Les gens n'étaient... l'appareil du parti n'était plus sûr d'avoir les acquis qu'ils avaient. Avec Khrushchev, on n'était jamais sûr. Il avait un côté aventurier. Il ne plaisait plus. Ils avaient peur de lui. Il était devenu un autocrate à sa manière. Il y a eu, puis il y avait la politique étrangère. Il y avait quand même ses affaires, le mur, les fusils, tout ça, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait, et bien sûr, comme vous avez dit, la crise économique et surtout en agriculture.
En deux mots, il nous resterait peu de temps, Lili Barkou. Est-ce qu'on peut dire que Khrushchev a préparé Gorbatchev?
Oui, on peut dire ça. On peut dire que, évidemment, et de toute façon, Gorbatchev se dit encore aujourd'hui l'héritier de Khrushchev, encore que selon moi, le seul qui aurait pu régénérer le régime a été Kosygin, mais à cause de Brejnev, on lui a pas laissé faire. En 65, c'était encore possible. Mais évidemment qu'il reste quand même dans l'histoire comme celui qui a voulu vraiment réformer et déboulonner Staline.
Et un de ceux donc que l'on retrouve dans votre livre, dont je recommande la lecture, Lili Barkou, Les Héritiers, et ça vient de paraître chez Pygmalion. À lire également l'histoire illustrée du communisme de Marcello Flores, publié aux éditions Place des Victoires, ainsi que Les Maîtres du Kremlin, du prince Igor au président Poutine, avec un chapitre sur Khrushchev, un livre publié aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits d'archives pâtées de 1953, 56 et 64, extraites du journal de votre année, distribuées en cassette vidéo chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs au 32 30, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Antoine Viossa, documentation et archives sonores, Virginie Bloch-Lenné et Claire Tessier, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, l'histoire et la mythologie d'un élément sans le